instant en direct.
Le mug sur la première.
Circonstances exceptionnelles, nouvelle rubrique. Chaque jour, on appelle un artiste, une personnalité qui est, comme la plupart d'entre vous, confinée à la maison. C'est notre séquence star à domicile et ce matin, on est ravis d'avoir au bout du fil monsieur Philippe Geluck. Bonjour Philippe.
Bonjour Élodie, comment ça va?
Mais comment ça va et vous?
Mais ça va très très bien. Je suis évidemment confiné, je suis un citoyen respectueux des règles et donc je ne bouge pas de chez moi. Et j'encourage tout le monde à le faire, évidemment, dans la mesure du possible. Et je me rends compte que c'est plus facile quand on habite un endroit ample et agréable que quand on est entassé à plusieurs dans 25 mètres carrés.
Voilà, et puis vous avez cette chance d'avoir votre atelier chez vous, on va en parler. On a vu passer votre dessin du chat, mieux vaut être un confiné plutôt qu'un confini. Voilà, comme ça c'est dit. Mais donc vous pouvez quand même continuer de travailler un petit peu, Philippe?
Ben oui, non, même pas un petit peu, en fait, normalement. Et ce qui est paradoxal dans mon cas, et dans le cas d'artistes ou d'écrivains qui travaillent chez eux, ben c'est qu'ils bougent en général pas de leur atelier. Et donc, être confiné, moi je le suis depuis des années, depuis des décennies même.
C'est le moment d'en parler, Philippe, si vous avez besoin de témoigner, de raconter votre journal de confinement depuis que vous travaillez. Non, mais vous travaillez sur quoi exactement?
Là, pour l'instant, je fais du rangement, beaucoup. J'essaye de mettre ce temps offert en supplément, il faut le prendre comme ça, à des tâches auxquelles on ne peut pas se consacrer habituellement, parce qu'on est pris dans une tourmente, dans une urgence, etc. Donc je travaille, j'avance, etc. Et là, maintenant, je me dis, tiens, c'est quelques jours ou quelques semaines en rab, qui ne sont ni des vacances, ni des vraies journées de travail, ni des week-ends. Enfin, c'est bizarre de passer, là, on sort du week-end, c'était samedi et dimanche. Mais non, voilà. Alors il faut le prendre comme un grand week-end. Et donc je fais du rangement et je vous raconte pas, c'est épouvantable parce que j'accumule du bazar, des croquis, des notes, des trucs, des brouillons, des trucs, depuis des décennies. Et là j'ai retrouvé des choses, c'est magnifique aussi.
Mais c'est bien, ça nous permet de nous identifier en fait. Vous êtes vraiment comme tout le monde, il y a du bazar chez vous.
Voilà.
Donc, mais justement, à propos de bazar, il y a du bazar aussi dans nos mails. Et samedi, vous avez lancé une idée, parce que vous n'êtes évidemment pas non plus à court d'idées. Profiter du confinement pour se débarrasser des mails inutiles. C'est en faisant ce rangement-là que ça vous est venu, cette idée?
Oui, tout à coup je me suis dit, tiens, parce que il y a une équipe qui travaille autour de moi, ils sont tous en télétravail, et puis je leur ai envoyé un petit mail jeudi ou vendredi en disant, écoutez les gars, si on en profitait pour nettoyer nos boîtes mails, parce qu'on se rend compte qu'il y a une accumulation de milliers, parfois de dizaines de milliers de mails qui sont vieux de plusieurs années et qui ne servent plus à rien. Je parle même pas des emails publicitaires ou des annonces pour une exposition ou pour un nouveau produit d'entretien, même pas ça. Des mails qui ont été importants à une époque et qui ne le sont plus parce que le problème est réglé. Et en fait, un jour j'ai lu, et c'est une réalité, c'est que stocker ces mails sur des serveurs un peu partout dans le monde, ça bouffe une énergie incroyable.
Donc évidemment, il ne faut pas oublier la planète pendant ces heures de confinement.
Voilà,
par ailleurs,
si on peut aider, si on peut aider à économiser cette énergie, c'est notamment en faisant de la place dans nos boîtes mail, parce que ces trucs ne servent à rien. Si on prend le temps de les virer, eh bien à chaque fois, on sauve l'équivalent de bouilloires électriques d'eau chaude. Vous savez que par exemple, quand on fait une recherche sur Google, ça bouffe en énergie une demi-bouilloire d'eau chaude.
Voilà, donc c'est peut-être le moment justement de prendre ce temps qu'on n'a pas d'habitude.
J'ai lancé ça vendredi et ça a déjà touché plus de 500 000 personnes. Donc je crois que ça parle à beaucoup de monde.
Effectivement. Et vous aviez par ailleurs beaucoup de projets cette année, notamment une exposition de 20 sculptures monumentales du chat sur les Champs-Élysées. Ça devait commencer le 9 avril. Alors que va-t-il se passer?
Ben il va rien se passer. C'est ça le drame. Enfin, c'est un bien petit drame par rapport à ce que vivent beaucoup de gens, évidemment. Donc, je ne veux pas du tout avoir l'air de me plaindre, mais simplement pour l'information, effectivement, je prépare cette exposition depuis 2 ans avec une équipe de 60 personnes. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que de fabriquer, de créer ces 20 bronzes.
Donc, c'est des bronzes de 2 mètres de haut. Hein,
2 mètres de haut chacun, oui.
Travail
sur
incroyable.
Socle de 70. Donc, c'est des objets qui font 2 mètres 70 de haut, qui devaient être exposés sur les Champs-Élysées, sur la partie droite en montant vers l'Arc de Triomphe, donc le long des jardins là, entre Concorde et le rond-point des Champs-Élysées. Mmh. Inauguration le 9 avril, On est en train de terminer la fonderie, ils mettent au point les derniers détails, on a le transporteur qui doit, avec ses semi-remorques, apporter tout ça, etc. Le montage se fait 6, 7, 8 avril, et puis on lance les invitations, et deux jours après, on lance une annulation en disant ben, ça n'aura pas lieu.
Mais ça n'aura pas lieu ou ce sera plus tard?
Ouais,
vous n'avez pas resté avec ces statues comme ça?
Ah mais non, alors pour l'instant...
Vous avez de la place chez vous, mais quand même pas à ce point-là, j'imagine.
Oui, alors dans le jardin, ça fait un peu beaucoup, donc on les a mises dans un hangar.
C'est très mégalou.
Dont je ne vous révèle pas, c'est un hangar secret, évidemment.
Ah, j'allais vous demander où elles étaient, justement.
Ah non, on ne peut pas le dire.
On ne peut pas les voir.
Non, non. On envoie certains détails en photo, on a lâché 2-3 sur mon Instagram, on voit 2-3 exemples, mais très peu parce que je veux que ça reste une surprise. Et on est en train de réfléchir, et ça on doit le faire avec la ville de Paris. Est-ce qu'on va reporter ça au mois d'août? Si tout est largement terminé, pourquoi pas août, septembre, octobre, et sinon ce sera l'année prochaine, de nouveau à la même époque, donc avril, mai, juin. Mais ça, on n'est pas maître du temps ni de l'épidémie, donc on doit vraiment être assuré que tout pourra se faire en sécurité pour tout le monde et que les gens reviendront, parce que à un moment on s'est dit on va faire une exposition dans une ville qui va être morte.
Qui va être vide, mais bon, en même temps, ça nous ferait quelque chose à regarder pendant les promenades. On espère, en tout cas, ces statues, pouvoir les voir très vite à une distance de moins d'un mètre, évidemment.
On peut pas se promener. C'est ça le problème. Bon, pour l'instant, alors on disait, imaginez, on aurait mis l'exposition en place. On peut se promener à deux, mais oui, normalement, cette exposition aurait dû être visitée par 4 millions de personnes à cette période-là. Donc, si on fait deux par deux, il faudra du temps pour arriver à 4 millions.
Il faudra la laisser un petit peu plus longtemps. Votre chat, Philippe Gueluc, vous posez un regard sur le monde. En quelques mots, quel regard vous portez sur le monde tel qu'il est aujourd'hui?
Mais je me dis que l'Occident, qui était triomphant depuis des siècles, tire une drôle de tête aujourd'hui. On se rend compte qu'on n'a pas du tout anticipé ce genre de choses, qu'on aurait pu le prévoir. Il y a beaucoup de rapports médicaux, sociologiques, même politiques, qui annonçaient le risque de ce genre d'épidémie. Et en fait, on aurait dû être prêt. On voit qu'avec les masques, les machins, les trucs, on n'est pas prêt, on n'a pas assez de matériel. En même temps, on ne peut pas vivre non plus tout le temps sur le pied de guerre. Mais on aurait dû. Il aurait fallu. Alors... Yaka Faucon, ça c'est vite dit, mais j'espère qu'on va tirer des leçons pour l'avenir et qu'en tout cas cette décroissance obligée, ces avions qui restent cloués au sol, cette relocalisation en Belgique, j'espère qu'on va tirer.
Merci pour ce message. Merci pour ce message et belle matinée sur la première. L'esprit clair.